Bonsoir à tous. Gare au grand écart à 10 jours du second tour. Emmanuel Macron promet d'enrichir son programme sans se renier pour convaincre les indécis aujourd'hui au Havre, venus parler d'écologie. Marine Le Pen, beaucoup plus au sud, le Vaucluse, meeting à Avignon. Si le peuple parle, le peuple gagne, scande-t-elle devant plusieurs milliers de personnes. L'actualité, c'est encore le récit de Salah Abdeslam qui continue sa vérité au procès des attentats du 13 novembre, interrogé aujourd'hui par l'accusation. Elon Musk veut faire main basse sur Twitter et c'est très politique. La Russie accuse l'Ukraine de bombarder son sol et menace de riposte. Et puis, le festival de Cannes, une partie de la sélection dévoilée, David Cronenberg, les frères Dardenne, James Gray, c'est le retour de grands noms. Et au téléphone, soit Fabienne.
Eh ben, on se penche au chevet ce soir du PS et de LR, où on n'a pas fini de digérer le premier tour de dimanche pour différentes raisons, mais le constat est le même, les partis traditionnels sont totalement hors jeu. Alors quel avenir pour ces deux formations? Est-ce qu'elles doivent, est-ce qu'elles peuvent compter sur leur assise territoriale pour se relancer? Ou faut-il tout repeindre du sol au plafond? Vos idées, vos questions au 01 45 24 7000.
France Inter. Parler aux écologistes et aux insoumis, c'est bien l'enjeu de ce second tour et la raison pour laquelle Emmanuel Macron se trouve aujourd'hui dans la ville de son ancien Premier ministre, Édouard Philippe, mais qui a placé Jean-Luc Mélenchon en tête dimanche dernier. Le président candidat venu parler énergie, environnement, promettant d'enrichir son programme. On attend encore de savoir comment. Bonsoir Simon Le Baron.
Bonsoir.
Il n'a pas l'air non plus de vouloir renverser la table pour séduire de nouveaux électeurs.
Non, des électeurs qui pourtant veulent du concret, comme ce professeur d'histoire-géographie qui l'interpelle à son arrivée.
Bonjour monsieur.
Professeur Géo, j'enseigne tous les jours la République, monsieur. Je sais qui est en face, le fascisme. Et là, concrètement, et j'ai aucune raison de voter pour vous. Et c'est un gros problème.
Emmanuel Macron tente de convaincre. Dialogue de sourds. Hein.
Je vous dis,
dites-moi, les budgets, monsieur, les personnels.
Mais monsieur, vous avez une drôle d'idée du débat citoyen.
Oui.
J'attends, dit un autre mélenchoniste, tenu à l'écart par les forces de l'ordre. Il attend la mesure qui fera passer la pilule Macron dans l'isoloir le 24 avril. Mais le président candidat n'est pas décidé à lui donner aujourd'hui.
Qui est écologiste et peut voter pour Madame Le Pen? Il faut me le présenter.
Toute la journée, une série d'attaques en règle contre le programme climato-sceptique, selon lui, de son adversaire, mais toujours aucune annonce.
Je ne vais pas, demain, proposer le projet de Jean-Luc Mélenchon ou proposer le projet d'Yannick Jadot, c'est évident. Par contre, je trouve que c'est une bonne respiration démocratique si, en cohérence avec le projet que je porte, si je dis je peux ajouter telle ou telle chose, je le ferai.
Ce projet entre renouvelable et nucléaire, réduction des émissions et productivisme, qu'Emmanuel Macron n'a en effet pas l'intention de chambouler depuis ses promesses d'ouverture du lendemain de premier tour, il ne l'avait encore jamais dit aussi clairement.
Simon, le baron en direct du Havre avec Romain Lucquin, Emmanuel Macron au Havre pour parler d'énergie, d'écologie, qui marque donc, on l'a entendu, sa différence avec le programme de Marine Le Pen. Bonsoir Célia Quiret.
Bonsoir Hélène.
Que propose exactement la candidate RN?
Alors Marine Le Pen promet de démonter progressivement les 8000 éoliennes du territoire et elle veut mettre un terme au futur projet. Or ça coûterait cher, au moins 2,5 milliards d'euros selon la filière, car il faut indemniser les propriétaires, dénoncer des contrats, c'est aussi tirer un trait sur 9% de l'électricité française et renoncer à des emplois en France. Comme le dit son adversaire, ce moratoire pourrait entraîner la fermeture par exemple du site de production d'éoliennes de Siemens au Havre avec 750 emplois. Et enfin c'est rendre quasi impossible la lutte contre le réchauffement climatique, car la France a besoin des renouvelables pour atteindre la neutralité carbone.
Et en matière de renouvelables, quel est le projet d'Emmanuel Macron?
Alors Emmanuel Macron mise sur l'éolien en mer. Il promet d'installer 50 parcs éoliens offshore. Ironie du calendrier, la première éolienne en mer vient d'être posée au large de Saint-Nazaire. Mais la France accumule beaucoup de retard depuis 10 ans par rapport à d'autres pays, comme la Grande-Bretagne ou le Danemark. Ensuite, Emmanuel Macron promet, comme les industriels d'ailleurs, de recycler les pales d'éoliennes à 100%. Elles le sont à 90% aujourd'hui. Et concernant les éoliennes terrestres, il freine leur progression. Il prévoit de doubler la puissance du parc à l'horizon 2050 et non plus 2030.
Et sur le nucléaire que les deux candidats défendent, leurs propositions sont-elles réalistes, Célia?
Alors plus ou moins, les deux misent en effet sur le nucléaire, mais pas au même niveau. Emmanuel Macron prévoit la construction de 14 EPR, ce qui semble être un maximum pour la filière, compte tenu du retard et du coût de l'EPR de Flamanville. Marine Le Pen en prévoit 20, c'est encore plus illusoire. Elle veut rouvrir Fessenheim et prolonger la durée de vie des vieilles centrales, mais elle risque de se se heurter à un problème de sûreté. Le gendarme du nucléaire, l'ASN, a toujours dit qu'il n'était pas certain que ces réacteurs puissent fonctionner au-delà de 50 ans.
Marine Le Pen est en meeting ce soir à Avignon, ville qui a elle aussi placé Jean-Luc Mélenchon en tête dimanche dernier, même si la candidate RN domine les suffrages dans l'ensemble du département. Jean-Luc Mélenchon qui est passé à 400 000 voix du second tour dimanche, avec ne serait-ce que la moitié des 800 000 votes qui sont allés à Fabien Roussel, il se serait qualifié, regrette les insoumis. Le communiste faisait aujourd'hui sa première conférence de presse depuis dimanche et lui préfère appeler au rassemblement pour les législatives, Laurence Perron.
Fabien Roussel, oui, veut bien reconnaître avec humilité sa défaite, mais il refuse qu'on lui fasse un procès en traîtrise.
Porter la responsabilité sur 802 000 électeurs quand il y a 12 millions d'abstentionnistes, c'est gonflé.
Il considère qu'il a d'abord été victime, plus que du vote utile, d'une forme de dégagisme.
Ce qui est dur aussi pour nous, c'est l'ampleur du vote prétendument utile pour éliminer le duel Macron-Le Pen. Il y a un dégagisme puissant qui s'est exprimé au premier tour de cette élection présidentielle.
Alors comment reparler à ces électeurs de gauche déçus en vue des prochaines législatives ?
Nous, on souhaite la discussion la plus large et avec tout le monde. Mais je vois bien que je n'ai pas les clés.
Le trousseau de clés, c'est Jean-Luc Mélenchon qui le détient et pour l'heure, l'insoumis n'a toujours pas décroché son téléphone.
Je souhaite cet échange, cette discussion, sans y mettre de conditions ni de préalables. Discutons de tout, soyons fous.
Reste ce second tour que Fabien Roussel estime très incertain, en raison notamment de la campagne menée par Emmanuel Macron.
Ça devient impensable. Tellement Emmanuel Macron cristallise de la colère, tellement il mène une campagne désastreuse. Il réussit quand même le tour de force qu'on ne retienne de lui que cette réforme des retraites à 65 ans. Aucune perspective d'augmentation du pouvoir d'achat dans les mois qui viennent. Que dalle !
Pas une voix ne doit aller à Marine Le Pen, le communiste a été très clair. Mais il est très inquiet des retours de ses électeurs qui, sans geste du président, lui assurent qu'ils n'iront pas voter.
Laurence Perron, et depuis hier, plusieurs universités sont mobilisées pour protester contre les résultats du premier tour. Dénoncer, disent les étudiants, un faux choix entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. À Nancy, Reims ou Paris, la Sorbonne où plusieurs centaines d'étudiants se sont encore rassemblés aujourd'hui.
Après 6 ans de silence et 7 mois de débat, Salah Abdeslam est bien décidé à dire sa vérité.
Il a commencé hier, comme il ne l'avait jamais fait jusqu'ici, à raconter le moment où il rejoint la mission terroriste, la ceinture explosive qu'il renonce à faire exploser en regardant les jeunes autour de lui, dans le bar où il est entré, et puis sa fuite. Bonsoir Charlotte Piret.
Bonsoir.
Son interrogatoire a repris aujourd'hui avec les questions de l'accusation et des parties civiles qui pointent les incohérences de son récit.
Et la première de ces incohérences, c'est selon le président, le fait d'avoir gardé le silence toutes ces années durant. Vous avez regretté que les médias vous aient présenté sous un jour qui ne vous correspondait pas. Pourquoi alors a-t-il fallu si longtemps pour que vous donniez des explications ? C'est une très bonne question, salut Salah Abdeslam, polo bleu vif et barbe taillée. Quand j'étais dans les plans qu'on m'avait dit, si tu te fais attraper, tu ne parles pas. Et après, les médias ont créé ce monstre dépourvu d'humanité. Aujourd'hui, c'est la dernière chance pour moi de m'exprimer, alors je la saisis. Plus fermé qu'hier, plus sec dans ses réponses, Salah Abdeslam continue cependant de s'expliquer sur le fait qu'il n'a pas tourné de vidéo de revendication comme tous les membres des commandos. Il évoque une photo prise peu avant les attentats avec ceinture explosive et Kalachnikov. Je pense que c'était pour ça. Sur les repérages qu'il aurait fait avec son frère au tout dernier moment, il détaille le Stade de France rejoint en taxi, puis le 18e arrondissement. On a un peu marché et puis on est rentré. Sur ce café dans lequel il a révélé hier qu'il avait pour mission de se faire exploser, seul, toutes les attaques ont été faites à plusieurs. On a du mal à croire que c'était vraiment votre objectif, soulève un avocat de partie civile. Dans le box, le principal accusé maintient calmement. Si je m'exprime aujourd'hui, c'est aussi pour moi. Alors si cette vérité ne vous convient pas, je m'en fiche.
Charlotte Piret en direct de la Cour d'assises spéciale de Paris. Cette information France Inter, le parquet d'Evry ouvre une enquête pour viol et agression sexuelle au sujet de l'école polytechnique. Près d'un quart des étudiantes affirment avoir été victimes d'agressions sexuelles depuis le début de leur scolarité dans un questionnaire diffusé en interne par la direction qui a fait un signalement au procureur de la République. Colline Berry condamnée à 2000 euros d'amende pour diffamation envers son ex-belle-mère, la fille aînée de l'acteur Richard Berry. Berry accuse son père de violences sexuelles à l'époque où il vivait avec Jeanne Manson au milieu des années 80, compagne qui, dit-elle, aurait participé aux agressions. Cette condamnation du tribunal d'Aurillac intervient avant même la fin de l'enquête sur les faits. Il est entré au capital de Twitter il y a à peine 10 jours et il veut désormais s'emparer de toute l'entreprise. Le multimilliardaire Elon Musk, déjà à la tête de Tesla et de SpaceX, mettrait près de 38 milliards d'euros pour devenir devenir propriétaire du réseau social qui compte plus de 200 millions d'utilisateurs actifs chaque jour. Bonsoir Julien Baldacchino.
Bonsoir.
Et cette tentative de rachat est très politique.
Oui, car en s'offrant Twitter, Elon Musk ne veut pas seulement ajouter une carte à son portefeuille d'entreprises innovantes. En prenant possession du site, il compte s'y imposer sa vision, car Elon Musk est aussi actif sur Twitter que critique envers la plateforme qui, pour lui, ne garantit pas suffisamment la liberté d'expression. C'est comme ça qu'il justifie sa volonté de racheter l'intégralité de l'entreprise. Le milliardaire affirme dans une lettre à l'actuel président du conseil d'administrateur que depuis son entrée au capital, il a compris que Twitter ne servait pas son impératif social sous sa forme actuelle. Première mesure défendue par Elon Musk, la possibilité de modifier le contenu d'un tweet après sa publication. Fonctionnalité très demandée par les utilisateurs et utilisatrices de Twitter. Mais cela pourrait aller beaucoup plus loin. On ne sait pas pour l'heure si le milliardaire voudrait modifier les règles de modération de Twitter au nom de cette liberté d'expression. Combat qui lui a valu une sympathie de la droite américaine, même si lui-même ne s'est jamais positionné politiquement. Dans tous les cas, Elon Musk ne perd pas son sens des affaires. Il plaide aussi en faveur d'un modèle payant pour Twitter.
Elon Musk, très suivi, on le rappelle, sur Twitter, 82 millions d'abonnés. La mouvance anti-vax, très active en Allemagne, compte aussi une frange radicalisée proche de l'extrême droite qui semblait préparer des actions particulièrement violentes. 4 personnes ont été arrêtées aujourd'hui qui projetaient attentats à la bombe et enlèvement de personnalité pour renverser le système. Ludovic Piétenu, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes notre correspondant à Berlin, Ludovic. Le ministre de la Santé était particulièrement visé et il tenait tout à l'heure une conférence de presse.
Oui, les 4 personnes arrêtées des quadragénaires sont d'anciens citoyens du Reich, un groupe extrémiste constitué de nostalgiques de l'Empire allemand et de néo-nazis, un groupe dissous, interdit depuis 2 ans, ce qui explique qu'ils étaient toujours surveillés par les autorités. 2 ans pendant lesquels ils sont devenus très actifs pendant la pandémie, dans les manifestations contre les restrictions liées au coronavirus, ils étaient des patriotes unis, le nom de leur groupe de 70 personnes environ, sur la messagerie Telegram, avec des fantasmes de coup d'État, comme l'explique la ministre de l'Intérieur. Ils avaient planifié par exemple des attaques sur le réseau électrique pour provoquer une panne de courant de longue durée sur tout le territoire. Ils avaient aussi prévu des enlèvements, comme ce médecin Karl Lauterbach, nommé il y a 4 mois ministre de la Santé. Tout ceci montre que les protestations contre les règles anti-Covid se sont radicalisées, dit-il. Que ces personnes ne sont pas seulement liées à cette pandémie, mais qu'il y a parallèlement des tentatives de déstabiliser l'État et la démocratie. Il s'agit d'une petite minorité dans la société, mais elle est très dangereuse. Nous devons y faire attention. Tout ceci montre que les protestations organisées ces 2 dernières années ont jeté quand même de l'huile sur le feu depuis ces 3 dernières années et l'assassinat d'un préfet. L'Allemagne fait face beaucoup plus qu'avant à cette menace d'extrême droite. Des groupuscules très souvent sont démantelés en Allemagne. Le dernier en date, c'était il y a 8 jours à peine.
Ludovic Piétenu, notre correspondant en direct de Berlin et dans la lutte contre l'épidémie de Covid. Parmi les vaccins autorisés, en voici un nouveau au Royaume-Uni, celui du laboratoire franco-autrichien Valneva. L'Union européenne examine encore le sérum.
Au 50e jour de guerre en Ukraine, la Russie accuse Kiev de bombarder en territoire russe.
2 villages frontaliers auraient été attaqués par des hélicoptères ukrainiens, ce que dément Kiev, accusant au contraire Moscou d'alimenter l'hystérie anti-ukrainienne. Sylvain Tronchet, vous êtes notre correspondant à Moscou. Bonsoir Sylvain.
Bonsoir Hélène.
Et de fait, tout cela est bien difficile à vérifier.
Oui, c'est invérifiable. Pour l'instant, il faut se contenter effectivement de la version du comité d'enquête russe, qui est un organe judiciaire directement rattaché au Kremlin, et du FSB, qui explique qu'un premier village donc de la région de Bryansk a été attaqué par 2 hélicoptères ukrainiens lourdement armés qui ont tiré sur des immeubles d'habitation d'un village qui s'appelle Klimovo, à 10 kilomètres de la frontière. Il y aurait 7 blessés, dont 2 seraient dans un état grave. Et on a juste pu voir quelques images diffusées par l'agence officielle RIA Novosti qui montrent quelques impact sur le mur d'une maison et sur une cabane en bois. Par ailleurs, dans la région de Belgorod, toujours à la frontière, mais à 200 kilomètres de là, un autre village aurait été bombardé, sans blessés ni dégâts. Là, c'est le gouverneur régional qui l'affirme, mais là encore, aucune source indépendante ne se trouve sur place pour le confirmer. Kiev, en tout cas, conteste avoir mené ces attaques.
Et ce n'est pas la première fois que les Russes lancent ce genre d'accusations, mais ils se font un peu plus menaçants, Sylvain.
Oui, clairement, Moscou avait notamment déjà rendu responsable l'Ukraine d'un raid d'hélicoptère, responsable de la destruction d'un dépôt d'essence à Belgorod, sans que cela ait pu être confirmé, et même plutôt mis en doute. Kiev l'avait contesté, mais la Russie menace effectivement ce soir. Moscou dit que si de tels incidents devaient se reproduire, alors son armée n'hésiterait pas à bombarder des centres de décision ukrainiens, y compris à Kiev, l'état-major de l'armée, par exemple, ce que disent les Russes. Ils se sont abstenus de faire jusqu'ici.
Sylvain Tronchet, en direct de Moscou, la Russie qui a subi aujourd'hui l'un de ses plus gros revers avec l'incendie et l'évacuation du croiseur Moskva, son vaisseau amiral en mer Noire, que l'armée ukrainienne affirme avoir frappé avec des missiles de croisière. La guerre en Ukraine et l'inflation freineront la croissance des deux prochaines années, juge la patronne de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, tout comme le FMI qui y voit un réel danger pour la reprise mondiale. Et elle perturbe aussi, on le sait, les chaînes d'approvisionnement. Mais la peur de manquer crée la pénurie. On le voit en France avec l'huile de tournesol que l'on peine à trouver dans certains supermarchés parce que certains font des réserves. C'est le reportage à Chambéry de Mélanie Tournardre.
Plus une seule bouteille d'huile de tournesol ici. Et quand les palettes arrivent, parce qu'il y a des livraisons régulièrement, les gens se jettent dessus avant même la mise en rayon. Le directeur, Julien Rumin.
Les gens qui ont vu qu'on amenait de l'huile, oui, se sont servis directement.
L'Ukraine est le premier producteur mondial de tournesol. Alors avec la guerre, les gens ont peur de manquer et dévalisent les rayons.
Stocker de l'huile pour les 10 prochaines années, ça va ne servir à rien. C'est là qu'on se retrouve avec... des ruptures en rayon.
Apparemment, il y a une caissière, elle m'a dit, il y en a une dame, elle a acheté 50 litres.
Cette cliente est complètement dépitée.
Pratiquement un jour sur deux, je repasse pour voir, mais il n'y en a pas.
C'est en ce moment qu'elle a le plus besoin de cette huile de tournesol.
On est d'origine musulmane, on fait le ramadan, et là, c'est bientôt la période de gâteau. Ça gâche tout.
Ajar aussi est dégoûtée, mais elle a peut-être trouvé une solution.
Je vais investir dans une friteuse sans huile. En fait, avec une cuillère d'huile, ça peut frire une grande quantité en fait, des frites. Voilà.
Anaï, elle regrette tout simplement ses comportements très égoïstes.
C'est un geste de repli sur soi-même, donc il faut arrêter d'avoir peur et de vivre dans la panique.
Le magasin de Chambéry a carrément dû rationner. C'est désormais 5 litres d'huile de tournesol maximum par foyer.
Reportage France Bleu, Pays de Savoie. Et cette année encore, le Festival de Cannes ne fera pas abstraction de l'actualité. Édition anniversaire, 75 ans du 17 au 28 mai prochain. Une partie de la sélection officielle a été dévoilé aujourd'hui. Bonsoir Corinne Pellissier.
Bonsoir.
Une édition tournée vers le monde et ça se ressent dans le choix des films sélectionnés.
Et comment ne pas garder à l'esprit la guerre qui se déroule en ce moment à nos portes. La sélection n'est pas complète mais Thierry Frémaux, le délégué du festival, nous a donné en avant-goût déjà de ce que serait cet anniversaire tourné vers les grandes préoccupations du moment. Plusieurs réalisateurs ukrainiens viendront montrer leur nouveau film. Sergueï Losnitsa, habitué du festival, ou Maxime Nakonechki pour un premier film qui évoque le Donbass et résonne très fort avec l'actualité.
Ce film-là, c'est comme s'il avait été tourné il y a 3 semaines, 1 mois. On a l'impression que nous sommes là-bas. C'est l'histoire d'une militaire, d'une fille des renseignements qui, dans le Donbass, a fait la guerre contre les Russes et qui a été enlevée, torturée, et qui a du mal à raconter ce qu'elle a vécu. Qui revient, c'est quoi de revenir de la guerre ?
Autre temps fort, Kirill Serebrennikov, jusqu'ici assigné à résidence en Russie, qui sera physiquement présent à Cannes pour défendre son nouveau film qui est en compétition.
Et cette 75e édition, c'est le retour aussi de grands noms, de grandes pointures, et ce n'est pas un hasard.
L'objectif est très clair, il faut faire revenir les spectateurs en salle avec en perspective de grands moments de tapis rouge. Baz Luhrmann et son film sur Elvis, le nouveau à George Miller avec Idris Elba, Tilda Swinton, le très attendu Tom Cruise et une compétition qui s'annonce relevée. 18 films à ce stade ont été sélectionnés, on ne les citera pas tous mais les noms de leurs réalisateurs font rêver. David Cronenberg avec Kristen Stewart, Léa Seydoux, Viggo Mortensen dans Crime of the Future, Claire Denis, Stars at Noon, James Gray, les frères Dardenne, Christian Mouju, encore Arnaud Desplechin avec Marion Cotillard, Melville Poupeau dans son nouveau film Frères et Sœurs.
Que du beau monde évidemment, merci beaucoup Corinne Pellissier, chef du service culture, le cinéma, le théâtre. Ce sera aussi le 27 avril prochain un hommage national rendu aux Invalides à Paris à Michel Bouquet. Il sera présidé par Emmanuel Macron, quel que soit d'ailleurs le résultat du second tour, car le futur ou la future présidente n'aura pas encore été investie.
Merci beaucoup Hélène Philippe pour le journal. On se retrouve demain.